Chapitre 15. Où se fait le récit des premières et dernières relations qui s'établirent entre Palmyrin Rosette et Isaac Acabut. Le mois de septembre arriva. Il était encore impossible d'abandonner les obscures mais chaudes retraites du sous-sol galéen pour réintégrer le domicile de Nina Ruche. Les abeilles eussent été certainement gelées dans leurs anciennes alvéoles. Heureusement et malheureusement à la fois, le volcan ne menaçait pas de se remettre en activité. Heureusement, car une éruption soudaine eût pu surprendre les galiens dans la cheminée centrale, seul conduit réservé au passage des laves. Malheureusement, parce que l'existence relativement facile et confortable dans les hauteurs de Nina Ruche aurait été immédiatement reprise, à la satisfaction générale. « Cette vilain mois que nous avons passé là, mon capitaine, » dit un jour Ben Zouf. « Avez-vous observé notre Nina pendant tout ce temps ?»« Oui, Ben Zouf, » répondit le capitaine Servadac. « C'est un petit être tout à fait exceptionnel. On aurait dit que toute la vie galienne se concentrait dans son cœur. »«
Bon, mon capitaine, et puis après ?»«
Après ?»« Oui, quand nous serons revenus à la terre, nous ne pouvons abandonner cette chère enfant. »«
Mordiou, Ben Zouf, nous l'adopterons. »«
Bravo, mon capitaine, vous serez son père, et si vous le voulez, je serai sa mère. »
Alors nous voilà mariés, Ben Zouf.
Ah, mon capitaine, répondit le brave soldat, il y a longtemps que nous le sommes.
Dès les premiers jours du mois d'octobre, les froids furent presque supportables, même pendant la nuit, en absence de tout trouble atmosphérique. La distance de Galia au soleil n'était pas triple alors de la distance qui sépare la Terre de son centre attractif. La température se maintenait à une moyenne de 30 à 35 degrés au-dessous de zéro. Des ascensions plus fréquentes furent faites à Nina Ruche et même au dehors. Les colons s'aventuraient plus impunément sur la grève. Le patinage fut repris sur cette admirable surface glacée que la mer offrait aux patineurs. C'était une joie pour les prisonniers de quitter leur prison. Chaque jour aussi, le comte Timachev, le capitaine Servadac, le lieutenant Procope venaient reconnaître l'état des choses et discuter la grande question de l'atterrissement. Ce n'était pas tout que d'aborder le globe terrestre. Il fallait, s'il était possible, parer à toutes les éventualités du choc. Un des plus assidus visiteurs à l'ancien domicile de Nina Ruche, c'était Palmyrin Rosette. Il avait fait remonter sa lunette dans son observatoire, et là, aussi longtemps que le froid le permettait, il reprenait ses observations astronomiques. Ce que fut le résultat de ses nouveaux calculs, on ne lui demanda pas. Il n'eut certainement pas répondu, mais au bout de quelques jours, ses compagnons remarquèrent qu'il paraissait être peu satisfait. Il montait, descendait, remontait, redescendait sans cesse, l'oblique tunnel de la cheminée centrale. Il marmottait, il maugréait, il était plus inabordable que jamais. Une ou deux fois, Ben Zouf, un brave comme on sait, enchanté au fond de ses symptômes de désappointement, accosta le terrible professeur. Comme il fut reçu, cela ne peut se dire. Paraît, pensa-t-il, que ça ne va pas là-haut comme il le voudrait. Mais triple nom d'un bédouin, pourvu qu'il ne dérange pas la mécanique céleste et nous avec. Cependant, le capitaine Servadac, le comte Timachev et le lieutenant Procope étaient assez fondés à se demander ce qui pouvait contrarier à ce point Palmyrin Rosette. Le professeur avait-il donc revu ses calculs et était-il en désaccord avec les nouvelles observations? En un mot, la comète n'occupait-elle pas sur son orbite la place que lui assignaient les éphémérides précédemment établies, et conséquemment, ne devait-elle pas rencontrer la Terre au point et à la seconde indiquée? C'était toujours leur plus grande appréhension, et n'ayant que les affirmations de Palmyrin Rosette pour baser leurs espérances, ils avaient lieu de tout craindre en le voyant si contrarié. c'est qu'en effet, le professeur devenait peu à peu le plus malheureux des astronomes. Évidemment, ses calculs ne devaient pas être en accord avec ses observations, et un homme tel que lui ne pouvait pas éprouver de plus vifs désappointements. En somme, toutes les fois qu'il redescendait à son cabinet, aux trois quarts gelé par une station trop longue au bout de sa lunette, il éprouvait un véritable accès de fureur. S'il eût été permis à l'un de ses semblables de l'approcher en ce moment, voici ce qu'il l'aurait entendu se répéter à lui-même. « Malédiction, qu'est-ce que cela veut dire? Que fait-elle là? Elle n'est pas à la place que mes calculs lui donnent, la misérable! Elle est en retard! Ou Newton est un fou, ou elle est folle! Tout cela est contraire aux lois de la gravitation universelle! Que diable, je n'ai pu me tromper! Mes observations sont justes, mes calculs aussi! Ah, satanée coquine !» Et Palmyrin Rosette se prenait la tête à deux mains, et il s'arrachait les cheveux, qui ne foisonnaient pas cependant sur son occiput. Et toujours, toujours le même résultat, un désaccord constant et inexplicable entre le calcul et l'observation. « Voyons, se disait-il, est-ce qu'il y aurait un dérangement dans la mécanique céleste ? Non, ce n'est pas possible, c'est moi qui me trompe. Et pourtant, pourtant !» Vraiment, Palmyrin Rosette eût maigri à la peine, s'il lui eût été possible de maigrir. Enfin, s'il était désappointé, on était inquiet autour de lui, mais c'était ce dont il se préoccupait le moins. Cependant, cet état de choses devait avoir un terme. Un jour, le 12 octobre, Ben Zoof, qui rôdait autour de la salle de Nina Ruche, dans laquelle le professeur se trouvait en ce moment, l'entendit pousser un cri retentissant. Ben Zoof courut à lui. « Vous vous êtes fait mal, sans doute ?» lui demanda-t-il du ton dont il aurait dit « Comment vous portez-vous » « Eureka, te dis-je, Eureka !» répondit Palmyrin Rosette, qui trépignait comme un fou. Il y avait dans son transport à la fois du contentement et de la rage. « Eureka ?» redit Ben Zoof. « Oui, Eureka, sais-tu ce que cela veut dire ?»« Non. Eh bien, va-t'en au diable !» Heureusement, pensa l'ordonnance que, lorsqu'il ne veut pas répondre, M. Rosette y met au moins des formes. Et il s'en alla, non au diable, mais trouver Rector Servadac. « Mon capitaine, dit-il, y a du nouveau. »« Qu'est-ce donc ?»« Le savant, eh bien, il a euréqué. »«
Il a trouvé !» s'écria le capitaine Servadac. « Mais qu'a-t-il trouvé ?»«
Cela, je ne le sais pas. »
Et c'est ce qu'il faudrait précisément savoir. » Et le capitaine Servadac fut plus inquiet qu'il ne l'avait jamais été. Cependant, Palmyrin Rosette redescendait vers son cabinet de travail et se répétait à lui-même « Oui, c'est cela, ce ne peut être que cela. Ah, le misérable! Si cela est, il le payera cher. Mais voudra-t-il avouer? Jamais! Il lui faudrait rendre gorge. Eh bien, je ruserai, et nous verrons. »
C'était à n'y rien comprendre, mais ce qui fut manifeste, c'est que, depuis ce jour, Palmyrin Rosette changea sa manière d'être vis-à-vis de maître Isaac Acabut. Jusqu'alors, il l'avait toujours évité ou malmené. Il fut désormais tout autre à son égard. Qui dut être étonné? Ce fut certainement maître Isaac, peu accoutumé à de pareilles avances. Il voyait le professeur descendre fréquemment à son obscure boutique. Palmyrin Rosette s'intéressait à lui, à sa personne, à ses affaires. Il lui demandait s'il avait bien vendu ses marchandises, quel bénéfice il en avait résulté pour sa caisse, s'il avait pu profiter d'une occasion qui ne se représenterait peut-être jamais, etc., etc., et tout cela avec l'intention, qu'il dissimulait à grand-peine, de l'étrangler net. Isaac Acabut, défiant comme un vieux renard, ne répondait que fort évasivement. Cette modification subite des manières du professeur à son égard était bien faite pour l'étonner.
Il se demandait si Palmyrin Rosette ne songeait pas à lui emprunter de l'argent. Or, on le sait, Isaac Acabut, en principe, ne se refusait pas à prêter, à un taux parfaitement usuraire d'ailleurs. Il comptait même sur ce genre d'opération pour faire valoir son bien, mais il ne voulait prêter que sur solide signature, et, il faut bien l'avouer, il ne voyait que le comte Timachev, riche seigneur russe, avec lequel il eût pu se risquer. Le capitaine Servadac devait être gueux comme un gascon. Quant au professeur, qui aurait jamais idée de prêter de l'argent à un professeur? Aussi, maître Isaac se tenait-il serré. D'autre part, le juif allait être contraint à faire de son argent un emploi aussi restreint que possible, mais sur lequel il n'avait pas compté. En effet, à cette époque, il avait vendu aux Galiens presque tous les articles alimentaires qui composaient sa cargaison. Il n'avait pas eu la sagesse de réserver quelques produits pour sa consommation particulière. Entre autres choses, le café lui manquait. Et le café, si parcimonieusement qu'on en use, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, lui dit Ben Zouf. Il arrivait donc que maître Isaac était privé d'une boisson dont il ne pouvait se passer, et force lui fut de recourir aux réserves du magasin général. Donc, après de longues hésitations, il se dit qu'après tout, la réserve était commune aux Galiens sans distinction, qu'il y avait les mêmes droits qu'un autre, et il alla trouver Ben Zouf. « Monsieur Ben Zouf, dit-il de son ton le plus aimable, j'aurais une petite demande à vous adresser. » « Parle, Gobseck, répondit Ben Zouf. J'aurais besoin de prendre à la réserve une livre de café pour mon usage personnel. » « Une livre de café ? » répondit Ben Zouf. « Comment, tu demandes une livre de café ?»« Oui, monsieur Ben Zouf. »« Oh, oh, voilà qui est grave. »« Est-ce qu'il n'y en a plus ?»« Si, encore une centaine de kilos. »« Eh bien, vieux, » répondit Ben Zouf en secouant la tête d'une façon inquiétante, « je ne sais pas si je peux te donner cela. »« Donnez, monsieur Ben Zouf, » dit Isaac Acabut, « donnez !» et mon cœur en sera tout réjoui. La réjouissance de ton cœur m'est superlativement indifférente. Cependant, vous ne refuseriez pas si un autre que moi... Ah, voilà, voilà, c'est que tu n'es pas un autre, toi. Eh bien, monsieur Ben Zouf, eh bien, je vais en référer à son Excellence le gouverneur général. Oh, monsieur Ben Zouf, je ne doute pas que dans sa justice... Au contraire, vieux, c'est sa justice qui me fait craindre pour toi. » Et l'ordonnance laissa Isaac Acabut sur cette réflexion vraiment peu consolante. Précisément, Palmyrin Rosette, toujours aux aguets, était arrivé pendant que ces paroles s'échangeaient entre Ben Zouf et Isaac. L'occasion lui parut bonne pour tenter l'aventure, et il entra aussitôt en matière. « Tiens, maître Isaac, dit-il, vous avez besoin de café ?»« Oui, monsieur le professeur, répondit Isaac Acabut. Vous avez donc tout vendu ?»« Hélas, j'ai commis cette faute. »« Diable, c'est que le café vous est nécessaire. Oui, oui, cela réchauffe le sang. »« Sans doute, et dans ce trou noir, je ne puis pas m'en passer. »« Eh bien, maître Isaac... » On va vous en donner une quantité suffisante pour votre consommation. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Et quoique je l'ai vendu, ce café, j'ai droit comme un autre d'en prendre pour mon usage. Certainement, maître Isaac, certainement. Et vous en faudra-t-il une grande quantité? Une livre seulement, je le ménage avec tant de soin, cela me durera longtemps. Et comment pèsera-t-on ce café? Demanda Palmyrin Rosette, qui, malgré lui, accentua légèrement cette phrase. « Avec mon peson, » murmura le juif. Et Palmyrin Rosette crut surprendre comme un soupir qui s'échappait de la poitrine de maître Isaac. « Oui, répliqua-t-il, avec le peson, il n'y a pas d'autre balance ici. » « Non, » répondit Isaac, qui regrettait peut-être son soupir. « Eh, maître Isaac, ce sera avantageux. Pour une livre de café, on va vous en donner 7. Oui, 7, c'est bien cela. Le professeur regardait son homme, il le dévisageait. Il voulait lui faire une question. Il n'osait, pensant avec raison, qu'Isaac ne lui dirait pas la vérité qu'il voulait à tout prix connaître. Cependant, ne pouvant plus contenir son impatience, il allait parler lorsque Ben Zouf revint. « Eh bien ?» demanda vivement Isaac à Cabut. « Eh bien, le gouverneur ne veut pas, » répondit Ben Zouf. « Il ne veut pas qu'on me donne du café ?» s'écria Isaac. « Non, mais il veut bien qu'on t'en vende. »«
M'en vendre, mein Gott ?»«
Oui, et cela est juste, puisque tu as ramassé tout l'argent de la colonie. Allons, voyons la couleur de tes pistoles. »«
Me forcer à acheter quand un autre... »«
Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas un autre. »«
Achètes-tu, oui ou non ?»« Miséricorde !»«
Réponds, ou je ferme la boutique. » Isaac savait bien qu'il ne fallait pas plaisanter avec Ben Zouf.
« Allons, j'achèterai, » dit-il.
« Bon, mais à quel prix ?»«
Le prix auquel tu as vendu, on ne t'écorchera pas, ta peau n'en vaut pas la peine. »
Isaac Akabut avait mis la main à sa poche et y faisait remuer quelques pièces d'argent. Le professeur était de plus en plus attentif et semblait guetter les paroles à la bouche d'Isaac.
« Combien, dit celui-ci, me ferez-vous payer pour une livre de café ?»«
10 francs, répondit Ben Zouf. C'est le prix courant à la terre chaude.
Mais qu'est-ce que cela peut te faire, puisque, après notre retour à la terre, l'or n'aura plus de valeur ?»«
L'or ne plus avoir de valeur, répondit Isaac. Est-ce que cela peut arriver, monsieur Ben Zouf ?»«
Tu le verras. L'Éternel me vienne en aide. » 10 francs une livre de café.
10 francs, est-ce fini ? Isaac Akabut tira alors une pièce d'or. Il la regarda à la lumière de la lampe. Il la baisa presque du bout des lèvres.
« Et vous allez peser avec mon peson ? » demanda-t-il d'un ton si plaintif qu'il en était suspect.
« Et avec quoi veux-tu que je le pèse ? » répondit Ben Zouf. Puis, prenant le peson, il suspendit un plateau à son crochet et versa ce qu'il fallait de café pour que l'aiguille marquât une livre, soit 7 en réalité. Isaac Akabut suivait des yeux l'opération.
« Voilà, dit Ben Zouf.
L'aiguille est-elle bien rendue au point ? Demanda le négociant en se penchant sur le cercle gradué de l'instrument.
« Oui donc, vieux Jonas.
Poussez-la un peu du doigt, monsieur Ben Zouf. »
« Et pourquoi cela ?»«
Parce que... » murmura Isaac Akabut. « Parce que mon peson n'est peut-être pas tout à fait juste. »
Ces mots étaient à peine achevés que Palmyrin Rosette sautait à la gorge d'Isaac. Il le secouait, l'étranglait.
« Canaille ! » criait-il.
« Au secours, à moi !» répondait Isaac Akabut.
La lutte continuait. Il est vrai que Ben Zouf se gardait bien d'intervenir. Au contraire, il excitait les combattants, il éclatait de rire. Pour lui, en vérité, l'un ne valait pas mieux que l'autre. Mais au bruit de la bataille, le capitaine Servadac, le comte Timachev et le lieutenant Procope vinrent voir ce qui se passait. On sépara Isaac et le professeur. « Mais qu'y a-t-il ? » demanda Hector Servadac.
« Il y a, répondit Palmyrin Rosette, il y a que ce sacripant nous a donné un faux peson, un peson qui accuse un poids plus fort que le poids réel. »«
Est-ce vrai, Isaac ? » ?»«
Monsieur le gouverneur, oui, non, répondit-il, oui. »«
Il y a que ce voleur vendait à faux poids, reprit le professeur avec une fureur croissante, et que lorsque j'ai pesé ma comète avec son instrument, « j'ai obtenu un poids supérieur à celui qu'elle a réellement. »«
Est-ce vrai ?»«
Vraiment, je ne sais, » marmottait Isaac Akabut. « Il y a enfin que j'ai pris cette fausse masse pour base de mes nouveaux calculs, et que ceux-ci ont été en désaccord avec mes observations, et que j'ai dû croire qu'elle n'était plus à sa place. »«
Mais qui, elle ? Galia ?
Eh non, Nérina, pardieu, notre lune !»
Mais Galia...
Eh, Galia est toujours où elle doit être, répondit Palmyrin Rosette. Elle va directement à la terre, et nous avec, et aussi ce maudit Isaac, que Dieu confonde.